autour de la question. D'où ça vient?
Qu'est-ce que ça va changer?
C'est pour qui?
À quoi ça sert?
Caroline Lachowski.
Bonjour, ravie de vous retrouver, chers amis auditeurs, pour chercher l'inspiration parmi les arbres aujourd'hui, à l'ombre de ces géants immobiles, si étranges et si familiers, qui abritent et soutiennent tout ce qui vit sur Terre, à commencer par nous, les humains, dépendant de leur simple présence et de leur majestueuse beauté. Comment nous laisser inspirer par les arbres, ces autres grands vivants sur Terre, mais d'une manière tout à fait différente de la nôtre. Pour le dire, allez, en un mot, gracieusement. On va donc se laisser toucher par la grâce des arbres, aujourd'hui à tous les sens du terme, poétiquement, émotionnellement et aussi scientifiquement, l'un n'empêchant pas l'autre. Regard croisé de nos invités, l'écrivain et professeur de sciences naturelles Alexis Génie, qui vient de publier « Parmi les arbres », essai de vie commune dans la collection « Monde sauvage » chez Actes Sud, l'écologue du CIRAD Jacques Tassin, penseur sensible de l'altérité végétale, qui croit aux arbres, titre de son dernier ouvrage paru chez Odile Jacob, et le directeur du laboratoire Arbres de l'INRAE à Nancy, Francis Martin, qui nous rappelle dans un ouvrage paru chez Humaine Science que les arbres aussi font la guerre et comment nos destins sont intimement et profondément liés aux arbres. Trois ouvrages sensibles que vous pourrez gagner, chers amis auditeurs, tout au long de cette émission, autour de la question comment nous laisser inspirer par les arbres. Bienvenue pour les célébrer poétiquement d'abord avec Rabindranath Tagore, Michel Random et Jules Supervielle.
C'était lors de mon premier arbre. J'avais beau le sentir en moi, il me surprit par tant de branches. Il était arbre mille fois. Les arbres sont les efforts sans fin de la terre pour parler au ciel qui l'écoute. Ainsi, je ne puis échapper à l'arbre, pas plus que je ne puis échapper à moi-même.
Citation lue par Tania Tsikounas, extraite de vos ouvrages. Jacques Tassin, bonjour.
Bonjour.
Et Francis Martin, bonjour Francis.
Bonjour Caroline.
Merci d'être en direct avec nous pour partager à la fois vos recherches et vos connaissances scientifiques sur les arbres, mais aussi tous les liens sensibles que nous tissons avec ces autres grands êtres vivants sur Terre. Nous sommes arboricoles au fond, nous vivons avec les arbres depuis toujours, ça c'est vous qui nous le rappelez, Alexis Génie. Bonjour. Ah non,
bonjour.
Si, bonjour Alexis, vous êtes en ligne avec nous en duplex ou par téléphone, c'est ça?
Ouais, c'est ça.
Vous étiez en duplex, vous êtes là par téléphone depuis les studios de France Bleu Aquitaine à Bordeaux. Alors l'écrivain que vous êtes, je rappelle, un lauréat du prix Goncourt pour votre premier roman « L'art de la guerre », est aussi, et d'abord peut-être, professeur de sciences naturelles. C'est en quelque sorte la conjugaison de vos passions pour la littérature, pour la science, pour les arbres, que vous avez écrit ce très inspirant petit ouvrage dans la collection « Monde sauvage » chez Actes Sud, « Parmi les arbres, essai de vie commune », Alexis Génie.
Oui, donc, c'est vrai que c'est un livre qui est un livre un peu d'unité entre différentes façons.
On vous a perdu, Alexis Génie, la liaison. Ah, si, on vous entend encore? Je pense qu'on... Non, on va essayer de vous rappeler et de vous avoir véritablement en duplex depuis les studios de Bordeaux, de Radio Bleu, de France Bleu, Aquitaine. Je vais y arriver. Je crois aux arbres, carrément. Ça, c'est le titre de votre nouvel ouvrage, Jacques Tassin. Après, à quoi pensent les plantes et penser comme un arbre, toujours aux éditions Odile Jacob. Je rappelle, Jacques Tassin, vous êtes avec nous en direct en studio, que vous êtes chercheur au CIRAD, écologue et penseur atypique d'une écologie fondée sur notre relation sensible au vivant, dans toute son altérité. Pourquoi croyez-vous aux arbres, Jacques Tassin?
Alors, j'ai choisi volontairement un terme un petit peu ambigu pour écarter, donc je m'en explique, l'idée qui consisterait à voir les arbres comme des divinités. Ça, je ne trouve pas ça forcément très intéressant. Mm-hmm. Il ne s'agit pas de cela, il ne s'agit pas non plus de les prendre comme des modèles, mais il s'agit d'avoir confiance en eux et de se laisser inspirer par leur manière d'être au monde et également de faciliter, de réguler le vivant. Ce sont des grandes figures du vivant. Et c'est pour cela que j'ai cette confiance, parce que ils ont d'abord... N'oublions pas que nous descendons des arbres, puisque la forêt
est notre arboricole. Hein.
Oui, nous sommes arboricoles. Mmh. Nous avons habité pendant très longtemps la forêt, pendant quasiment 65 millions d'années, hein, depuis notre origine de primates. Et ça, nous ne pouvons pas l'oublier. Et nous devons la gratitude aussi aux arbres de nous avoir permis de devenir ce que nous sommes aujourd'hui, dans notre corps et dans notre esprit.
Sauvons la forêt pour nous sauver, Francis Martin. Alors vous êtes un des spécialistes mondiaux de la forêt, à la tête du laboratoire d'excellence arbres à l'INRAE de Nancy. Vous avez notamment découvert, Francis, comment les arbres et les champignons communiquent entre eux. Vous êtes l'auteur de Sous la forêt, pour survivre, il faut des alliés. Et vous venez de publier, donc toujours chez Humaine Science, les arbres aussi font la guerre pour se protéger, pour se défendre et pour défendre aussi le vivant qu'ils abritent et avec lequel ils cohabitent. Là encore, il y a aussi urgence à nous inspirer de ça.
En fait, dans le premier ouvrage, Sous la forêt, j'avais présenté la forêt sous un angle positif. Coopération, symbiose entre les arbres-mondes, hébergeant un ensemble extraordinaire d'organismes et de micro-organismes, dont les champignons symbiotiques et bénéfiques avec lesquels ils ont tressé une alliance il y a très longtemps. Dans ce second ouvrage, je voulais montrer que la forêt, ce n'était pas qu'un monde de bonté. Il y a aussi des conflits, il y a des guerres. Et en fait, les arbres qui sont sur la Terre depuis 300 millions d'années, ils ont appris, ils sont très résilients. Donc, ils ont développé toute une série de processus et de mécanismes pour survivre face aux agressions. Donc, le livre nous emmène à travers les différentes forêts du monde et nous révèle toutes les agressions dont les arbres font l'objet. L'homme, évidemment, est en première ligne, mais les arbres sont également agressés par les insectes, par les microbes, bactéries, champignons, virus, et également par d'autres plantes, les plantes parasites.
Donc, il y a de quoi nous inspirer, justement, pour savoir comment peut-être être plus résilient aussi, tout en sachant à chaque fois que... Alors, nous ne sommes pas des arbres, ça c'est bien clair, hein, c'est un autre règne du vivant, mais finalement, c'est s'en inspirer, regarder comment on peut être vivant autrement. On vous a récupéré, Alexis Génie, je crois, en duplex.
Oui, j'en suis revenu.
Voilà. Et donc, je veux bien votre éclairage aussi là-dessus, parce que tous les trois, il y a quelque chose en lien. Vous êtes à la fois... vous savez de quoi vous parlez, hein, vous êtes aussi professeur en sciences naturelles, mais à chaque fois, c'est un autre lien, comment dire, profond, immédiat, sensible, sans anthropomorphisme, qu'on peut développer, cultiver, hein, le mot est juste, avec les arbres.
Oui, bien sûr, parce que l'anthropomorphisme est haïssable. C'est-à-dire qu'on comprend rien si on se projette simplement dans la nature. Si on veut vraiment comprendre les êtres vivants, les autres êtres vivants, il faut se mettre dans leur peau en quittant la nôtre. Voilà. Et ça, c'est un exercice assez extraordinaire. Et ça a été quelque chose aussi qui m'a donné l'idée de ce livre, c'est-à-dire essayer de comprendre un mode de vie qui est autre, qui n'est pas le nôtre, mais avec lequel nous sommes très très liés.
L'arbre, vous êtes d'accord là-dessus tous les trois, c'est le tout autre, c'est une autre manière d'être et d'habiter la terre, mais à laquelle nous sommes profondément, intimement, depuis toujours, liés et sensibles. On peut le dire comme ça, c'est peut-être ça qui vous rassemble tous les trois, et voilà pourquoi, hein, Alexis ?
Oui, tout à fait. Je pense que... Bon, alors, des tout autres, sur Terre, il y en a pas mal. Mmh. Bon, mais les nématodes ou les bactéries, on a que peu de rapports avec eux, peu de rapports conscients en tout cas. Par contre, l'arbre a quelque chose de proche, de mythologiquement proche, et finalement qui a un rôle quasiment quotidien dans notre vie. Et ça, c'est très très fort. Dans toutes les cultures, il y a un rapport à l'arbre.
Jacques Tassin, vous voulez dire quelque chose là-dessus, parce que
effectivement, une différence considérable entre l'arbre et l'homme. Et pour moi, elle tient dans le fait que l'arbre ne cesse de se déployer, d'aller vers l'autre, de s'ouvrir au monde, alors que nous, malheureusement, nous avons plutôt tendance déjà parce que nous sommes des animaux, mais aussi par notre culture, nous avons tendance à nous replier sur nous-mêmes. Donc nous voyons un autre être vivant qui a réussi formidablement bien dans le monde, mais qui, d'une manière tout autre, et qui collabore aussi. Donc il y a quand même des choses qui sont, des manières d'être qui sont formidablement intéressantes. Et puis, encore une fois, nous sommes liés par notre histoire, une histoire qui... Je ne dirais pas qu'elle est commune, mais en tout cas une longue histoire de coexistence, de cohabitation, que malheureusement nous avons complètement interrompue en tournant le dos aux forêts, en devenant des homo sapiens.
Ce qui me fascine, c'est que les arbres, ils sont à la fois autres, et voilà, ça fait 40 ans que j'étudie les arbres, et je n'ai toujours pas bien compris comment ils fonctionnaient en termes d'êtres sociaux, où effectivement ils collaborent, ils forment des communautés végétales extraordinaires qui couvrent un tiers de la planète. Ils fonctionnent, ils sont complètement adaptés à ce monde, mais en même temps, ils sont étranges, on ne parle pas leur langue, on ne les comprend pas bien. Mais après, en tant que scientifique, quand on décortique, on étudie les mécanismes intimes du fonctionnement de ces arbres, leurs tissus, au niveau tissulaire, au niveau cellulaire, ils sont quand même extraordinairement proches de nous. Et quand j'évoque dans ce livre les mécanismes de défense immunitaire des arbres, c'est assez incroyable de voir que les molécules, les mécanismes qui permettent la résilience des arbres, qui permettent à ces arbres de se défendre contre les agressions, ces molécules sont terriblement proches de celles des humains et des mammifères et des animaux. Donc il y a quand même, je crois que c'est Jacques qui dit qu'on a partagé quand même 2 milliards d'années, les animaux et les végétaux.
D'évolution.
Et les microbes, d'évolution, de coévolution. Et ils ont encore une grande partie, au niveau cellulaire finalement, c'est très proche de notre monde animal.
Donc on n'est pas si loin que ça du règne végétal. Ouais. Enfin, on peut être proche et en même temps très différent. On a besoin d'eux, on cohabite avec eux, on a besoin de leur beauté aussi. On y reviendra parce que Jacques Tassin, de même qu'Alexis Génie et vous, Francis Martin, on en parle et on s'en nourrit de cette beauté autour de la question comment vivre avec les arbres, comment nous inspirer de ces autres vivants et comment en plus allier science et poésie. Je propose un nouvel éclairage, c'est celui d'un autre grand scientifique, le célèbre astrophysicien Hubert Reeves, qui nous a appris à nous, poussière d'étoiles, à regarder le ciel et le cosmos, mais aussi à ne pas négliger, à ne pas oublier, à aimer cette terre que nous avons en partage. Écoutez Hubert Reeves nous parler de sa vie commune avec les arbres.
J'ai vécu au Canada toute mon enfance, et donc je me suis beaucoup promené dans les forêts. C'est toujours été mon grand plaisir. Donc j'ai développé beaucoup de plaisir à marcher dans la forêt, ce qui, j'ai appris en japonais, a un nom. Et ce nom, je ne me souviens pas du nom en japonais, mais je me souviens de sa traduction, ça s'appelle « prendre des bains d'arbres ». Ça veut dire aller s'immerger dans la forêt, seul, avec seulement des arbres, et sentir leur présence. On la sent, on ne sait pas très bien comment, mais on la sent, ça. Ça se sent, on sent qu'il y a un rapport avec les arbres. Les arbres, ils sont présents, vous pouvez continuer à rêver, à réfléchir, vous sentez qu'ils vous accompagnent. C'est comme prendre contact avec une autre espèce de vie, totalement différente de la nôtre, mais c'est quelque chose qui quand même nous parle, nous dit quelque chose.
Qu'est-ce qu'ils nous disent? Qu'est-ce qu'ils nous chuchotent, les arbres, si on sait les écouter, Alexis Génie?
C'est un peu compliqué parce qu'il parle lentement.
Très lentement, oui.
Très lentement. Non, mais c'est vrai qu'il y a cette histoire d'échelle de temps est très très différente entre nous, animaux, et les végétaux, et les arbres particulièrement, puisqu'ils vivent à une échelle de temps de plusieurs siècles. Et puis aussi un rythme de croissance qui est lent, etc. Mais alors, pour revenir à ce qui se disait un peu avant, je crois que l'étude scientifique des arbres est à peine commencée. Mm-hmm. C'est-à-dire que dans la biologie, qui est une science relativement récente, puisqu'elle date d'à peine 2 siècles, eh bien, on a beaucoup plaqué le modèle animal et le modèle même humain sur des végétaux et sur les arbres. Donc, on est en train de sortir de ça, on est en train de sortir de cet anthropocentrisme et de trouver des concepts qui sont propres aux arbres. Et ça, c'est vraiment intéressant. Là, on vit une sorte de, peut-être, révolution scientifique dans l'étude des arbres.
Vous êtes d'accord, Francis Martin, Jacques Tassin?
Oui, oui, même si en fait les grands processus biologiques que j'étudie au niveau biochimique, physiologique, génétique, génomique, il y a quand même une très grande unicité. Alors évidemment, la cellule végétale, la cellule des arbres, les arbres qui font du bois, c'est quand même les seuls organismes qui font du bois. Ils ont des particularités, mais je suis assez à l'aise, en fait, quand je me promène depuis d'un livre de biologie animale vers un livre de biologie qui décrit la biologie végétale et la biologie des arbres, je ne suis pas dans un monde étranger. Mais mon éducation, ma formation scientifique, essentiellement faite effectivement abreuvée, alimentée par des connaissances sur l'animal, sur l'homme en particulier, je ne me sens pas étranger quand j'étudie les arbres. Même si j'essaye, évidemment, un biologiste qui étudie les arbres, il va étudier en particulier ce qui fait leur particularité, c'est-à-dire leur longévité, leur pérennité, la formation du bois.
C'est ça, parce que je voudrais qu'on revienne aussi sur cette question du temps, hein, qui n'est pas du tout le même pour les arbres. Ces géants, soi-disant immobiles, Jacques Tassin, parce qu'en fait, ils migrent aussi, ils se déplacent aussi, mais à une autre échelle. Alors, comme disait Alexis, ils parlent, mais on ne peut pas les entendre. C'est pas du tout, leur temps n'est pas le nôtre.
Non, alors on peut les envisager selon différentes temporalités. Mais en tout cas, à l'échelle des migrations, donc, comme vous venez de l'évoquer, mais là, il s'agit de dizaines de milliers d'années où effectivement les arbres se déplacent à la faveur de la dispersion de leurs graines. Mais dans leur vie, autant ils sont ancrés au sol, donc ils ne se déplacent pas. Il n'y a pas de palmier marcheur comme la mythologie voudrait le laisser croire. Mais ça n'empêche pas qu'un arbre se déploie dans le ciel. Et en fait, sa croissance, c'est aussi une forme de mouvement qui lui permet de s'ajuster. Il va aller chercher les branchages, les sources lumineuses dont il a besoin. Et puis pour ses racines, il va aller chercher l'eau, puis des éléments minéraux dont il a également besoin. Donc en réalité, il ne cesse de bouger. Ça, on ne le voit jamais. Mais même en hiver, et ça, on le voit d'autant moins que je vais évoquer les racines croissent tout le temps, même en hiver. Il suffit qu'il fasse plus de 10 degrés, mais c'est très souvent le cas dans le sol, même dans des hivers rigoureux. À ce moment-là, les racines continuent à croître, donc à bouger. Donc c'est un mouvement permanent, mais qui nous échappe.
Le philosophe et botaniste Emmanuel Coccia, qui vous a inspiré aussi, parle de, alors je ne sais plus, c'est de croissance infinie ou indéfinie.
Indéfinie.
C'est ça, indéfinie. Elle est infinie et indéfinie. C'est-à-dire que la croissance, elle peut ne pas s'arrêter. Enfin, c'est-à-dire, c'est contraire de nous, pour le coup.
Absolument.
Être humain, animaux.
Oui, mais on revient sur cette idée de déploiement vers l'extérieur et de renouvellement, puisqu'un arbre ne cesse de se renouveler. Et en réalité, dans le vivant de l'arbre, il n'y a que du jeune. C'est dans la partie morte, qu'on appelle bois de cœur, qu'on trouve des parties mortes. Donc l'arbre, c'est ce côté juvénile permanent qui se renouvelle année après année quand il s'agit d'arbres qui font partie de nos contrées.
Alexis Génie.
Oui, oui. Alors, je pense, dans ces cas-là, je pense toujours à un texte de Francis Ponge qui compare les différents types de vivants au langage en disant que les végétaux, c'est le langage écrit. C'est-à-dire que tout ce qui a été dit reste. Et donc, petit à petit, ça s'agrandit, mais en gardant le passé présent. Alors que l'animal, c'est du langage oral. C'est-à-dire qu'il ne reste pas, il se déplace, et il ne reste rien de son passé. Bon, c'est une métaphore de poète.
Bien sûr.
Mais qui me parle beaucoup.
Et qui dit quelque chose sur la mémoire. Sur la mémoire des arbres.
Oui, c'est vrai. Il y a dans leur forme la mémoire de ce qu'ils ont vécu. D'ailleurs, c'est presque comme un visage humain, finalement, qui va petit à petit se modeler en fonction des dizaines d'années que la personne a vécues.
Mais c'est une mémoire au sens où cette mémoire-là est une trace. Et donc, effectivement, l'arbre garde la trace de son antériorité. Mais ce n'est pas une mémoire qui se souvient d'un événement passé et qui n'existe plus.
Donc, c'est ça, ne compare pas.
Le terme est ambivalent.
Et oui, mais comme toujours, on va parler peut-être de l'intelligence des arbres ou de la sensibilité des arbres. Les thèmes sont ambivalents, il faudrait en fabriquer de nouveaux. C'est pour ça qu'on va pas mal écouter les poètes, les écrivains, parce que finalement, c'est peut-être plus simple, même les sculpteurs. Oui, Francis
Martin. Ce qui est vraiment extraordinaire, c'est leur capacité phénoménale à explorer le monde. à la recherche permanente, à la recherche permanente de ressources. Donc les parties aériennes, sans arrêt, tournées vers le soleil pour absorber les photons, c'est les alchimistes qui vont transformer la lumière en sucre, en élément organique. Mais en même temps, le système racinaire, sans arrêt, en train de prospecter le sol à la recherche des éléments nutritifs en permanence.
Les arbres sont constamment à la recherche d'un ailleurs. Hein. Effectivement, c'est vraiment vers le ciel et vers la terre. Autour de la question, comment s'inspirer, comment vivre avec les arbres et pourquoi finalement on n'a pas le choix. Et c'est tant mieux. On ira même dans quelques instants jusqu'à dessiner un arbre. Alors effectivement, des feuillages jusqu'aux racines avec le célèbre botaniste Francis Allais. Mais commençons par nous mettre à l'écoute de l'arbre, version debout sur le zinc et sur RFI.
Je suis la plantée au milieu du désert, les pieds comme attachés, les bras qui fendent l'air. Dois-je avouer ce que je cache? Je suis l'arbre planté au milieu du désert, le regard embué et la rage sanguinaire. Après moi, il n'y a que du sable. Et ce long silence après toi. Écoute mon serment, écoute ma prière. Je suis si creux dedans et j'ai tant de colère. Je ne sais plus. Ma faiblesse, mon écorce est un leurre. J'ai la gorge si sèche, je suis comme nu sous la mitraille. C'est un long silence.
Autour de la question, comment la science infuse ? Caroline Lachowski.
Dessinez-moi un arbre, Francis Allais, mais à la radio.
Pas très compliqué, un tronc de cône en bois qui représente le tronc. Le tronc, c'est l'élément fondamental de l'arbre. Donc je commence par ça, un tronc de cône en bois. Voilà, au-dessus plutôt, il y a des branches et des feuilles qui forment comme un hémisphère. Et en dessous, il y a un autre hémisphère qui est fait de racines et qui est beaucoup plus grand que celui que vous voyez.
En dessous, sous la terre. Les racines, c'est plus important que ce qu'on voit.
C'est plus important que ce qu'on voit.
Et c'est fondamental ce qui se passe en dessous, évidemment.
Ah ben, pas question d'arbres sans racines.
Pas question d'arbres sans racines, évidemment, nous disait le formidable botaniste de la forêt tropicale Francis Allais autour de la question comment vivre avec les arbres. Et vous savez bien, chers invités, alors Francis Martin, Jacques Tassin en studio, à quel point il se passe des choses et des communications souterraines entre les racines des arbres. C'est bien là que ça se passe, grâce aussi, vous le disiez, à ces feuilles qui se nourrissent de l'air, du soleil, grâce à ces racines qu'il fait un avec la terre, l'arbre. Alexis Génie, vous avez, quant à vous, en tant qu'écrivain, professeur de sciences naturelles également, une formule étonnante qui m'a scotché à propos des racines. Les racines, c'est ce sur quoi on trébuche, dites-vous. Je trouve ça génial.
Voilà, c'était lié à une anecdote. Je racontais à une époque où je faisais du roller la nuit dans les rues. Et toujours, il fallait faire attention aux arbres, les gros arbres d'alignement séculaires, les platanes, etc., qui ont une puissance de racines extraordinaire, qui soulève le goudron, le bitume, et qui risque de faire trébucher. Et c'est vrai que cette notion de racine, on a essayé de l'appliquer à l'homme. Et bon, ça me paraît toujours un peu approximatif. C'est-à-dire qu'on a l'impression d'avoir des racines, mais c'est quand même pas tout à fait la même chose. Et c'est une notion très très floue.
Et c'est voilà. Une notion c'est aussi floue, justement, que c'est pour ça que moi, les racines, c'est ce sur quoi on trébuche. Je me dis, très bizarrement, ça s'applique aussi bien à nous les hommes qu'aux arbres. Mais de l'importance des racines et comment... comment définir justement ces arbres? On n'en voit que la partie émergée de l'iceberg, hein, c'est ça, Francis Martin?
Les parties aériennes, le houppier, la canopée, le feuillage, ce n'est que la moitié de l'arbre.
Ouais, c'est ça.
Donc un chêne centenaire qui est déjà imposant par ses dimensions aériennes, il faut imaginer qu'il y a la même quantité de biomasse, de racines qui irriguent la totalité du sol sous terre, là. Les racines, c'est fondamental pour un arbre. D'abord, ça l'ancre. Ils sont immobiles. Ils sont là, posés dans le monde, avec leur énorme système racinaire. Mais ce n'est pas qu'une ancre. C'est également un système de pompe, d'absorption. Tous les éléments nutritifs qui vont irriguer l'ensemble de l'arbre, y compris la canopée, le houppier, ben, il faut aller les chercher dans le sol, dans toutes les anfractuosités du sol.
Et il y a un double mouvement, hein, dans cet arbre. C'est ça, la sève, il y a un double mouvement. Il y a deux sèves dans un arbre.
La sève montante, l'eau, d'abord l'eau, qui est indispensable. Hein,
et, par les racines.
Par les racines, enrichie d'éléments minéraux, azote, phosphate, etc. Et puis en plus, le système racinaire, c'est le contact avec les autres. C'est le réseau social, si on peut parler de réseau social pour les plantes. C'est-à-dire, c'est par ces racines que les arbres vont communiquer avec le monde souterrain, les microbes, les filaments fongiques qui irriguent le sol forestier et qui vont connecter les arbres les uns aux autres. Et là, aujourd'hui, il y a un grand débat autour du rôle de ces réseaux mycorhiziens qui potentiellement connectent les arbres les uns aux autres. Mais quelle est la quantité de nutriments, quelle est la quantité d'énergie, quels sont les messages qui passent à travers ce réseau mycorhizien qui lie les arbres les uns aux autres dans la forêt. Et là, il y a un vrai débat au sein de la communauté scientifique.
Il y a un vrai débat qui nous parle d'autant plus, Jacques Tassin, que nous-mêmes, humains, nous vivons de plus en plus en réseau. Alors, on a un peu tendance à plaquer comme ça, mais on comprend, enfin, on peut imaginer peut-être ce qui se passe en dessous, même si c'est d'une autre nature que notre communication ou nos réseaux sociaux, évidemment.
Oui, oui, il faut se méfier des projections,
voilà,
comme d'habitude.
Voilà, il faut se méfier de ça. Et en même temps, ça peut aider à comprendre,
voilà,
parfois.
Voilà, des fois, l'anthropomorphisme peut nous aider. Faut pas tomber dedans, quoi. Faut pas que ça vire à l'anthropocentrisme, quoi.
C'est ça.
Où là, effectivement, là, on se perd. Mais faire le parallèle avec les réseaux, c'est ce qui nous permet de comprendre effectivement ce qui relève du transport souterrain d'éléments nutritifs ou de phytohormones ou d'éléments qui peuvent être partagés au sein du vivant. Mais alors, ayant dit tout cela. Il ne faut pas non plus. C'est pas parce que le volume racinaire ou la masse racinaire est à peu près équivalente à la masse aérienne que on a un équivalent dans le, je dirais, d'un point de vue fonctionnel. Et je m'explique. Je veux dire par là que Alors ça a été montré par un médecin hollandais dès le XVIe siècle. L'arbre doit beaucoup plus au ciel qu'il le doit à la terre, voilà.
Étonnamment,
contre-intuitivement. Et c'est pour ça que finalement, on est tellement tenté de faire du zoocentrisme, de projeter l'animal sur le végétal, parce qu'on ne peut pas imaginer que l'arbre doive autant au ciel. Et en réalité, il doit au ciel à peu près 99,9%.
C'est-à-dire il doit aussi au soleil, à l'air, c'est ça.
Alors l'eau, il la pompe du sol, mais c'est néanmoins avant tout dans le ciel qu'il s'enracine. Mais déjà Léonard de Vinci avait vu cela, il avait vu cette proximité entre le feuillage et l'air. Enfin, il suffit de regarder comment un arbre est fait dans ses branches pour voir qu'il y a presque une connivence entre l'arbre et la feuille. Et l'arbre ne cesse de baigner et de pénétrer la feuille, qui en réalité est un sac, comme Alexis Génie l'écrit dans son livre.
La feuille est un sac.
Oui, oui, c'est un sac, c'est plein d'air en réalité. C'est beaucoup de vide d'un arbre.
Alexis Génie, les feuilles, sur les feuilles qui sont des sacs.
Oui, mais bien sûr, en fait, c'est. On pourrait considérer que l'arbre, il n'a pas beaucoup changé depuis l'algue. Parce que les feuilles, ce sont une sorte de bande transparente qui contiennent des pigments qui peuvent capter la lumière et qui vont transformer cette lumière en énergie chimique. Et simplement, le reste, les branches, le tronc, etc., c'est fait pour déployer ces bandes réceptrices dans le soleil et dans l'air.
Au fond, l'arbre communique partout avec tout et de tous les côtés.
Absolument, il est ultra sensible.
Oui.
ultra sensible.
Le ultra poreux.
Oui, c'est ça. Le processus qui. Alors là, on a une vision de poète, là. Hein, c'est
absolument.
Vrai, mais que je trouve remarquable. Mais elle cache le processus fondamental qui sculpte notre planète, c'est la photosynthèse. Mmh. C'est la capacité qu'ont les plantes, et en particulier les arbres, de transformer le gaz carbonique, l'eau, avec l'eau et l'énergie du soleil, en sucre. Ça, c'est quand même quelque chose d'extraordinaire et qui alimente, qui irrigue la totalité de notre planète.
Au fond, c'est
planète,
la planète
de la
des arbres. Hein. Ce sont les arbres et les plantes qui permettent aux autres
absolument.
Vivants.
Même s'il
ne
faut pas minorer
vivre.
Les océans, parce qu'effectivement,
bien
il y a
sûr.
Aussi beaucoup de phytoplancton. Mais les arbres, avec cette capacité extraordinaire de s'ériger grâce au bois qu'ils fabriquent vers le ciel, c'est quand même essentiellement pour mettre tous ces petits capteurs, toutes ces petites centrales solaires au contact de l'air, du ciel, pour aller chercher l'énergie.
Au contact de l'air et du ciel pour aller chercher l'énergie, oui, autour de la question comment s'inspirer des arbres et comment surtout cohabiter avec les arbres, parmi les arbres, auprès d'eux, dans leur ombre. Je propose un nouvel éclairage, vu d'ailleurs, vu du sud, entre Costa Rica et Cameroun, carrément. C'est l'éclairage de l'écologue forestière du CIRAD, Marie-Ange Ngobieng, avec qui vous avez d'ailleurs collaboré, Jacques Tassin, à l'écriture de l'ouvrage « Vivre avec les forêts tropicales », qui se posait la question justement de savoir comment hommes et arbres peuvent et doivent cohabiter. C'est bien ça la question aujourd'hui. Marie-Ange Ngobieng avait profité de son passage à Paris pour nous expliquer comment des exemples réussis de reforestation, de protection de la forêt en lien avec les humains qui y vivent en Amérique centrale pourraient peut-être inspirer d'autres zones forestières tropicales comme celle de son Cameroun natal. On écoute Marie-Ange Ngobieng et vous réagirez ensuite.
Je suis basée au Costa Rica et le Costa Rica, l'institut où je suis expatriée, travaille en Amérique centrale, en général en Amérique latine. Et je voudrais présenter au Cameroun, à ma famille, le cas des communautés forestières du Guatemala. Nos communautés forestières sont inexistantes au Cameroun. Donc j'ai discuté récemment avec mon autre collègue, Philippe Guissol, qui est basé au Cameroun. Les forêts dans les communautés forestières n'existent plus. Et les Pygmées et les Bakas, qui sont nos premières nations, se cachent. Elles sont esclavagisées, entre parenthèses. Et ce n'est pas, je veux dire, c'est un gâchis. Parce que justement, dans les communautés forestières au Guatemala, on voit que ces anciennes nations, ces premières nations ont vécu avec la forêt pendant des années, ont réussi à avoir un rapport. Et dans ces communautés forestières, on arrive à maintenir des forêts dans des zones sous pression climatique, anthropique et tout, grâce à ces savoirs locaux. Et ça se voit au niveau des cartes. Si vous allez au Guatemala, dans la zone de la Selva Maya, entre le Mexique, le Guatemala et le Belize, ce point vert là, ces zones vertes, ces fragments verts, c'est des zones de concession forestière. Et il y a des indigènes et ils vivent en interaction avec la forêt depuis des millénaires et on arrive à conserver ces forêts grâce à leur savoir. Pourquoi ça pourrait pas être implémenté chez nous ?
Bel éclairage qui pose question, hein, Jacques Tassin, de Marie-Ange Ngobieng, et qui répond d'ailleurs à plusieurs questions de nos auditeurs sur les réseaux sociaux, notamment au Bénin, Aliou Djibril et Franck à Cotonou. Vous voulez réagir ?
Oui, il y a beaucoup à tirer des savoirs locaux que malheureusement nous avons quasiment tous perdus. Comme si même c'en était une fierté de, encore une fois, de tourner le dos à ce que nous avons pu apprendre de la forêt. Et bon, il faut se dépêcher de les récupérer, ces savoirs locaux, qui nous donnent d'autres regards que nos regards occidentaux sur ces forêts, qu'il nous faut garder avec nous.
C'est ça, qu'il ne s'agit peut-être pas de maîtriser, ou aujourd'hui il s'agit quoi de... C'est pas
il
ça,
s'agit,
hein,
il
c'est
s'agit
plus
de composer avec elle.
Ah, composer voilà. avec elle.
D'accompagner, mais pas de maîtriser, pas de piloter, enfin...
De composer mais... avec, et avec les hommes qui y vivent aussi,
ah bah
c'est
entendu.
Pas la nature
bien
sous
entendu.
Cloche et des
bien
arbres
entendu.
Au loin.
Parce qu'il n'y a rien de plus beau, de mon point de vue, qu'une forêt habitée par des hommes. C'est là où c'est intéressant et c'est là qu'est notre devenir. C'est un devenir de collaboration, de cohabitation, de coexistence et même de solidarité. Et c'est ça qui est à rechercher, je pense, aussi bien dans la recherche que dans d'autres modes d'existence et puis de recueil de connaissances. C'est cette solidarité qui nous fait défaut à tous.
Alexis Génie, je vous entends réagir
oui,
en duplex.
Alors c'est vrai que moi je ne suis pas un praticien, hein, je ne suis qu'un observateur, mais il y a quelque chose, il y a un fait qui est frappant, c'est ce qu'on a observé en Amazonie. Depuis quelques dizaines d'années, on s'est rendu compte que l'Amazonie était modelée par les populations qui y vivaient.
Depuis toujours.
C'est-à-dire qu'autour des villages, les arbres utiles sont aidés, sont, on ne peut pas dire cultivés, mais on favorise leur croissance. Et finalement, il y a des sortes de jardins d'arbres autour de ces villages. Ça veut dire qu'il y a une façon d'utiliser la forêt de façon extrêmement féconde, extrêmement utile, sans la détruire. C'est-à-dire qu'une forêt comme la forêt amazonienne qui pousse sur un sol très pauvre, si on coupe la forêt pour cultiver quelque chose ou faire d'élevage, il y a une baisse de production extraordinaire. Alors que l'usage de cette forêt tropicale avec toutes ses ressources, en la laissant avec ses ressources de fruits, de toutes sortes de choses que produisent les arbres, est une façon durable et profitable de l'utiliser.
C'est une autre manière aussi aujourd'hui, Francis Martin, de favoriser la forêt, de vivre avec, de la soutenir, de soutenir les arbres et les humains.
On a un débat terriblement intéressant là. Je suis complètement partagé, c'est-à-dire que parfois ma position même personnelle est ambiguë, c'est-à-dire que j'aime la forêt où l'homme a sa place. Il n'y a rien de plus beau pour moi qu'une une chênaie jardinée, les grandes chênaies colbertiennes. On aime s'y promener. J'aime la forêt guyanaise où effectivement on détecte des traces de l'homme. Mais en même temps, il faut absolument préserver des forêts indemnes de l'homme. Parce que c'est là aussi, elles sont... Je pense que c'est
les grandes forêts du bassin du Congo, d'Amazonie.
L'homme peut passer, l'homme peut traverser. Mais l'homme est comme les autres animaux, comme les autres vivants de ces forêts-là. Il doit avoir un minimum d'impact. Il nous faut à tout prix préserver sur notre planète des lieux où ces forêts, appelons-les primaires, c'est peut-être primales, où l'homme n'a pas accès, où l'homme a très peu accès. Sinon, nos enfants, nos petits-enfants n'auront jamais de vision de ces forêts sauvages.
Donc il faut tout préserver, tout garder, il faut essayer de vivre avec les arbres, parmi les arbres, mais aussi de les laisser vivre, les arbres. Tous trois, vous citez, j'ai envie là vraiment de l'écouter, vous citez l'écrivain et poète Jean Giono, l'homme qui plantait des arbres, les petits extraits, juste pour le plaisir de nous cultiver, à tous les sens du terme.
Il plantait des chênes. Je lui demandais si la terre lui appartenait. Il me répondit que non. Savait-il à qui elle était? Il ne savait pas. Il planta ainsi, sanglant, avec un soin extrême. Depuis 3 ans, il plantait des arbres dans cette solitude. Il en avait planté 100 000. Sur les 100 000, 20 000 étaient sortis. Sur ces 20 000, il comptait encore en perdre la moitié du fait des rongeurs ou de tout ce qu'il y a d'impossible à prévoir dans les desseins de la Providence. Restaient 10 000 chênes qui allaient pousser dans cet endroit où il n'y avait rien auparavant.
Formidable Jean Giono qui avait tout compris et que vous citez tous les trois, Jacques Tassin, Francis Martin et Alexis Génie, extrait de L'homme qui plantait des arbres, une animation dénichée sur le net et signé tout avec presque rien.
J'étais sur la montagne de Lure où Giono justement vivait à un moment où c'est là où il plante, où le berger plante 10 000 chênes, c'est la montagne de Lure. C'est vrai qu'à la fin du XIXe siècle, elle avait été tellement surpâturée, cette région, l'homme avait fait tellement de dégâts qu'il n'y avait plus de forêt. Il n'y avait plus qu'une garrigue brûlée régulièrement pour que les pasteurs puissent y mettre leurs troupeaux. Et c'est quand même magique de s'y promener aujourd'hui, parce que certains bergers ou forestiers, il y a un siècle, ont planté des forêts. Les forêts sont revenues. Et avec elles, les ruisseaux, les rivières, ce que Giono décrit de façon remarquable. Donc je pense que...
On peut replanter quoi?
Peut-être d'abord, là où c'est possible, où c'est encore possible, laisser les forêts qui n'ont pas été dégradées en libre évolution, vivre leur vie, que l'homme intervienne un minimum. Et puis là où l'homme a vraiment causé des dégâts considérables, ce qui est le cas quand même dans beaucoup d'endroits sur notre planète, il va falloir replanter. La question est de savoir qu'allons-nous replanter pour le siècle futur. Et là, on est fort dépourvu.
Je vous laisse réfléchir à cette question. Qu'allons-nous replanter pour le siècle futur, au son d'un compositeur que vous aimez beaucoup, Jacques Tassin, que vous nous avez passé entre les deux oreilles. Ce morceau s'appelle « Silva, la forêt ». Pierre Bensoussan sur RFI.
Thank you.
Silva dans la forêt musicale de Pierre Bensoussan sur RFI autour de la question comment vivre avec les arbres. Nous nous interrogeons et nous nous inspirons à la fois de science, de poésie, de littérature et de botanique pour découvrir comment vivre parmi les arbres avec l'écrivain Alexis Jani en duplex avec nous depuis Bordeaux. Et puis nous sommes en direct en studio avec l'écologue Jacques Tassin qui croit aux arbres, titre de son dernier ouvrage, et avec le directeur du laboratoire Arbres de l'INRAE, Francis Martin, qui publie Les arbres aussi font la guerre. Trois ouvrages formidables qui sont en lien eux aussi et que vous pouvez gagner, chers amis auditeurs, si vous nous le demandez par mail ou sur notre page Facebook en précisant bien votre adresse postale. Tous sont en lien, tous ces ouvrages, tous ces auteurs, à travers des citations, des émotions artistiques ou littéraires communes. Ainsi, le sculpteur Giuseppe Pennone et ses extraordinaires sculptures, mémoires d'arbres que vous citez, Jacques Tassin, que vous citez, Alexis Jani. Giuseppe Pennone, Sève et Pensée, tient donc, fait actuellement l'objet d'une exposition à la bibliothèque François Mitterrand à Paris. Je vous propose d'écouter une grande spécialiste des arbres et de la proprioception des arbres, Catherine Laine, formidable botaniste, qui m'avait fait découvrir les arbres de Giuseppe Pennone entre Sève et Pensée.
Giuseppe Pennone est un sculpteur italien qui me fascine. Il utilise beaucoup les arbres, le bois, les troncs. Et en 1999, au moment de la grande tempête qui a mis tant d'arbres par terre chez nous, il a demandé à récupérer le tronc d'un cèdre de Versailles, pas très loin d'ici. Et ce tronc, il l'a creusé, donc il a fait une fenêtre dans le tronc et il a enlevé petit à petit, cerne de bois après cerne de bois, il a enlevé ces cernes, donc il a remonté le temps de l'arbre, parce qu'il faut juste se rappeler qu'un arbre pousse par l'extérieur, juste sous son écorce, et qu'il rajoute chaque année un cerne de bois supplémentaire qui coiffe tous les autres à l'intérieur de son tronc. Donc lui a remonté ses cernes, a remonté le temps, jusqu'à retrouver l'arbre adolescent, le jeune arbre, qui se trouve toujours au cœur du vieil arbre, de n'importe quel vieil arbre.
C'est ça.
Voilà. Donc ça, je trouve ça assez beau, parce que c'est une démarche tout à fait scientifique. En remontant ses cernes de bois, il remonte le temps, et il retrouve l'arbre jeune, qui est là toujours au creux de l'arbre âgé, et c'est vrai pour tous les arbres.
L'arbre jeune, au cœur, au creux de l'arbre âgé, Alexis Jani, ça vous fait rire et sourire, même en duplex
beau,
à la radio.
Oui, hein. Parce que c'est un rêve de romancier aussi, de retrouver l'enfant ou le jeune homme qui est en soi, autour de la vieille carcasse qui a fini par se développer.
Magnifique, hein. Magnifique comment les artistes, Jacques Tassin, comme ce sculpteur Pennone, hein, dont vous pouvez voir les œuvres en ce moment, si vous êtes à Paris, chers amis auditeurs, à la Bibliothèque nationale François Mitterrand, comme cet artiste peut donner à voir cet arbre qui meurt, hein, mais qui pourrait aussi ne jamais mourir, qui est toujours jeune à l'intérieur.
Les scientifiques, non pas par nature, mais par exercice de leur discipline, sont tenus de se tenir à distance. La science ne peut pas faire autrement.
Bien sûr.
Alors que les artistes, eux, ils essaient d'être au ras des choses qu'ils observent. Et c'est pour ça que, enfin, c'est ce qui aide Pennone à avoir ce regard et cette contiguïté entre le corps de l'homme et le corps de l'arbre, je mets des guillemets, notamment dans une sculpture que moi j'ai vue à Chaumont-sur-Loire, où on voit une main qui tient une branche et on voit la branche déformée par l'emprise de la main. Mais en réalité, on sait aussi que c'est le processus, enfin dans une temporalité évolutive, que c'est le processus inverse qui a joué, c'est-à-dire que notre main est le résultat d'une très longue confrontation à la forme et à la rugosité, à la dureté des branches. C'est comme ça que nos mains sont apparues.
Se sont faites, c'est en grimpant dans les arbres,
voilà. Et donc c'est ce double sens que fait apparaître Pennone, et c'est magnifique. Enfin, quand nous sommes juste scientifiques, si je peux dire ça comme ça, nous sommes incapables de restituer cette réciprocité. Seuls les artistes peuvent le faire.
Alors, je vais quand même demander aux scientifiques, Francis Martin, nous donner peut-être une réponse. On arrive à la fin de cette émission, à cette question qui nous a occupés pendant toute cette émission. Comment vivre avec les arbres? Comment vivre avec les arbres,
Francis? D'abord, Martin, les côtoyer. Continuer à encourager les plus jeunes générations à aller en forêt, à côtoyer les arbres, à les apprendre, à les respecter, à les nommer, à les reconnaître. Ce serait déjà beaucoup. Hein.
ça serait déjà beaucoup. Déjà, si on y arrivait. Allez, Alexis Génie, comment vivre avec les arbres? Vous qui publiez donc cet essai de vie commune. Hein.
Oui, en planter le plus possible partout, le plus divers possible, et aller les voir pousser, et aller se poser dessous, et les regarder, les contempler, les toucher. Bon, alors attention, je ne vais pas embrasser les arbres, je ne fais pas partie de cette catégorie-là. ça reste contemplatif.
Donc contemplons les arbres, parce que je vois avec Francis Martin, il disait non, plantons quand même pas partout.
Pas partout,
c'est ça que vous dites. Ah là là. Non mais c'est éminemment complexe, évidemment. Jacques Tassin, c'est à vous que revient la conclusion. Mmh. Comment vivre avec les arbres?
retrouver cette confiance que nous avons perdue, que nous redécouvrons avec l'écologie. Puisqu'on connaît toute la panoplie des services écosystémiques, pour reprendre ce jargon technocratique.
La gratitude qu'on peut avoir vis-à-vis des
voilà,
arbres.
Tout ça mérite de la gratitude, et cette gratitude, elle peut être beaucoup plus profonde, mais ça, on l'a oublié. On peut la retrouver dans notre corps, on peut même le retrouver jusque dans notre spiritualité, puisque Alexis Génie l'avait évoqué très rapidement tout à l'heure. Toutes nos mythologies doivent elles-mêmes beaucoup aux arbres.
N'oublions pas les arbres qui relient le ciel à la terre, qui nous relient. Merci infiniment à tous les trois d'avoir été en direct et en duplex avec nous. Je rappelle à nos amis auditeurs que vos ouvrages sont à gagner. Parmi les arbres, Essai de vie commune d'Alexis Génie aux éditions Actes Sud. Merci Alexis Génie d'avoir été en duplex avec nous depuis Bordeaux.
Merci de m'avoir invité.
Ah oui, puis vous revenez quand vous voulez pour parler des arbres et d'autres mondes. Je crois aux arbres. Jacques Tassin, vous signez cet ouvrage chez Odile Jacob. Les arbres aussi font la guerre, de Francis Martin, chez Humaine Science. N'hésitez pas à nous les demander, chers amis auditeurs, par mail ou sur notre page Facebook. Merci à tous les trois d'avoir été en duplex et en direct avec nous. J'ai pas envie de m'arrêter de parler des arbres, mais il faut bien. Donc on se retrouvera auprès des arbres, peut-être, avec le plaisir peut-être de penser comme un arbre. Et puis je signale que ce soir, on vous retrouve, Francis Martin, si on est aux environs de Paris, du côté du château de Chantilly, pour un grand débat autour des arbres,
oui,
de la forêt de Chantilly.
L'état des forêts et forêts de l'avenir.
Forêts de l'avenir. Allez, on vous réinvitera pour en parler. Merci beaucoup. Autour de la question, c'est fini pour aujourd'hui. N'hésitez pas à partager et à vous abonner à notre podcast disponible sur toutes les bonnes plateformes et sur l'application RFI Pure Radio. Au plaisir de vous retrouver demain, chers amis auditeurs et auditrices, avec Alice Ménard à la réalisation, Caroline Fillette en coulisses et Caroline Lachowski au micro pour vous servir. Autour de la question du vol chez les animaux, les oiseaux, mais aussi les insectes, les chauves-souris, voire les ptérosaures, ou bien encore les écureuils volants, les mille et une manières de voler. À suivre demain, la tête dans les nuages. Évidemment, merci pour votre curiosité. Chers amis auditeurs, surtout gardez l'esprit libre et ouvert à tous les possibles. À l'écoute de RFI, c'est bientôt l'heure de retrouver vos informations.
Pour nous contacter, autour de la question @rfi.fr.